Robert Scherrer, agente de inteligencia oficial de enlace del FBI en América Latina con sede en Buenos Aires.
Robert Scherrer était un agent du FBI, le service de police américain en charge, entre autres, du contre-espionnage. La grande affaire de sa vie fut son action en Amérique latine au début des années 1970, alors qu'il était en poste en Argentine, à l'ambassade des États-Unis à Buenos Aires. En pleine guerre froide, il a joué un rôle clé dans la collaboration secrète entre les services de renseignement de son pays et ceux des dictatures d'Amérique latine dans la lutte sans merci menée à cette époque contre les dissidents et les opposants de gauche. Guillermo Garín, un ancien général chilien, se souvient.
Nous, le gouvernement militaire et particulièrement le général Pinochet, luttions contre le terrorisme.
À lui seul, l'agent Robert Scherrer incarne toute l'ambiguïté des États-Unis dans ce qu'on appelle l'opération Condor, une campagne secrète de répression politique et de terrorisme d'État, menée de manière concertée par les dictatures militaires des pays du sud de l'Amérique latine. Initiée en 1975 par le Chilien Augusto Pinochet, une politique criminelle impitoyable, menée conjointement par l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil et la Bolivie, qui pendant plus de 10 ans a conduit à l'enlèvement ou à l'assassinat d'environ 30 000 personnes.
Olivier, qu'est-ce qui se passe? Vous obéissez.
Traqué dans différents pays d'Amérique latine, mais aussi jusqu'aux États-Unis ou en Europe. Ce n'est qu'à la fin des années 1990 que des magistrats, en enquêtant sur le général Pinochet, feront la lumière sur l'opération Condor. En Argentine, à l'époque, une blague au goût amer courait à propos de Robert Scherrer. On disait que ce mystérieux agent du FBI était une centrale de renseignement à lui tout seul, bien meilleure que la CIA, pour dénicher des renseignements et informer Washington sur ce qui se passait réellement en Amérique latine.
Nous, nous combattions le communisme, importé de la Russie ou de l'URSS à l'époque, qui, via Cuba, avait pratiquement installé son armée ici.
Les cibles de l'opération Condor étaient des militants révolutionnaires, des hommes politiques, mais aussi de simples citoyens, enseignants, syndicalistes, étudiants, journalistes, prêtres, religieuses, tous suspectés d'avoir des opinions subversives. En 1978, une Chilienne raconte pour la télévision française l'arrestation 3 ans plus tôt de son mari, dont elle est toujours sans nouvelles.
C'était le couvre-feu, personne dans la rue, sauf la police. Quand soudain, on a frappé fortement à la porte et je me suis réveillée. On a entendu « police, police ». Mon époux n'avait pas fini de s'habiller quand ils sont entrés. « Nous allons l'emmener, madame ». C'est la tragédie d'un an et 3 mois, depuis le 4 novembre 1975. Depuis cette date, je ne sais rien. Il n'y a pas une porte, pas un lieu du gouvernement que nous n'ayons pas parcouru. Partout.
Quelles étaient ces idées politiques ou quelles sont ces idées politiques?
De gauche. Je ne peux pas vous dire que nous étions de droite, car nous sommes des travailleurs.
Beaucoup de ces personnes arrêtées ont disparu sans laisser la moindre trace, probablement après avoir été torturées et assassinées. On se souvient des images des mères et des grands-mères argentines qui, jusque dans les années 2000, manifestaient tous les jeudis sur la place de Mai à Buenos Aires pour réclamer leurs enfants et petits-enfants disparus pendant la dictature. Il faudra des décennies pour qu'un début de lumière se fasse sur l'opération Condor. Robert Scherrer est un paradoxe à lui tout seul. Même si, contrairement à d'autres agents du FBI, il n'était pas lui-même un tortionnaire, il a été pendant plusieurs années un agent actif, un complice des dictatures dans leur politique meurtrière. Mais il est aussi celui qui, plus tard, révélera au monde l'existence de l'opération Condor et qui deviendra pour les défenseurs des droits humains la meilleure source de renseignements sur les dictatures d'Amérique latine. Des révélations qui, en 1998, enfin, permettront l'arrestation à Londres du général Pinochet, le grand chef d'orchestre de l'opération Condor.
Augusto Pinochet, ancien dirigeant du Chili, s'est vu refuser l'immunité diplomatique. Un verdict accueilli par une explosion de joie par les quelques 200 manifestants massés devant le Parlement. Chiliens, parents des victimes de la répression, citoyens d'Amérique du Sud ou militants, leur joie est totale.
On ne sait pas grand-chose de la jeunesse de Robert Scherer, sinon que cet Américain d'origine allemande et irlandaise est né en 1935 à New York, dans le quartier populaire de Brooklyn.
Brooklyn, across the river.
Brooklyn, de l'autre côté du fleuve.
City of friendly people, sometimes called Dodgerville.
La ville peuplée de gens sympathiques, appelée aussi Dodgerville.
Three great bridges span the East
Trois
river,
grands ponts enjambent l'East River,
downtown Manhattan.
Reliant Brooklyn au sud de Manhattan.
Il étudie à Fordham, une université catholique prestigieuse de New York. Mais au bout de 3 ou 4 ans, lassé des études ou contraint de gagner sa vie, Robert Scherer s'engage dans la marine. C'est peu de temps après, dans les années 1950, qu'il entre au FBI. Le FBI, Federal Bureau of Investigation, créé en 1908, est aux États-Unis le principal service fédéral de police judiciaire. Mais ses attributions comprennent également le renseignement intérieur et le contre-espionnage. Alors que la CIA, qui ne sera créée qu'en 1947, est chargée du renseignement extérieur. Le FBI est indissociable de son chef, le sulfureux et tout-puissant John Edgar Hoover, qui dirige le bureau depuis 1924 et, malin, réussira à demeurer à ce poste jusqu'à sa mort en 1972, c'est-à-dire pendant 48 ans. Très populaire, incontournable, pour ne pas dire intouchable, Hoover est reconnu pour son pragmatisme, son efficacité, malgré l'usage de méthodes controversées, brutales, voire illégales. Le voici dans les années 30, dans un film de la télévision américaine. Assis à son bureau, Edgar Hoover, bras croisés, le regard sévère, explique aux Américains ce qu'est le FBI.
Il n'y a pas de mystère dans la manière dont travaille le FBI. Sa formule est simple. Entraînement intensif, un personnel recruté avec soin et très efficace et en plus une exigence ferme concernant la conduite, l'intelligence et l'intégrité.
Pour quelle raison le jeune Robert Scherer choisit-il d'entrer au FBI ? Par patriotisme ou par goût de l'enquête ? On ne sait pas. Peut-être partage-t-il l'obsession anticommuniste de son chef charismatique. Ou, plus simplement, l'ex-étudiant voit dans le FBI la perspective d'une carrière assurée et d'un bon salaire. Car dans les années 50, le service recrute. Dans un étonnant reportage de la télé française en 1964, Georges de Caunes interroge Larry, un agent du FBI, sur son métier.
Nos agents spéciaux en une formation universitaire, et c'est demandé que notre vie, la vie de chaque agent de FBI, soit impeccable et irréprochable. Il faut dire que nos recrues doivent avoir au moins 23 ans et pas plus que 40 ans. Notre recrue doit mesurer 1m70. Aussi, nos agents doivent avoir un poids assez fixe, c'est-à-dire doit correspondre à son taille. Et un agent qui est déjà, un recrue qui est déjà devenu agent, il grossit un peu, il risque d'être envoyé. Et même un agent fut-il placé dans les places les plus hautes.
De Robert Scherer, personnage resté longtemps secret et pour cause, on ne possède qu'une photo en noir et blanc. L'agent est au téléphone, un téléphone à fil bien sûr, assez bel homme, regard concentré, cheveux courts, mèche sage, chemise stricte, cravate tricotée. Propre sur lui, Robert Scherer semble tout droit sorti d'un film américain des années 60. Ses premières missions, il les accomplit à New York, à Washington, puis, un peu plus exotique, à Porto Rico, territoire américain des Caraïbes. C'est peut-être lors de ce séjour que notre rouquin d'origine germano-irlandaise apprend l'espagnol. Et comme bientôt il parle un espagnol quasi parfait, en 1969, Scherer est envoyé un peu plus au sud, en Argentine, capitale Buenos Aires.
Buenos Aires, más de 8 millones de habitantes.
Buenos Aires, plus de 8 millions d'habitants. La ville est constamment visitée par des hommes et des femmes de toutes les latitudes de la Terre.
À Buenos Aires, Robert Scherer a son bureau à l'ambassade des États-Unis. Officiellement, il y occupe le poste de legal attaché, chargé d'affaires juridiques. Un terme flou qui désigne en réalité une fonction précise du FBI. Le legal attaché, il y en a d'autres en Amérique latine et dans le monde, a pour mission en principe de collaborer avec la police locale afin d'obtenir des renseignements sur des crimes ou des criminels qui pourraient mettre à mal des citoyens ou des intérêts américains. Robert Scherer sera donc en poste à Buenos Aires de 1969 à 1975. 6 ans seulement. Mais des années charnières pour la collaboration, souvent secrète, entre les États-Unis et l'Argentine d'abord. Car les deux pays ont un ennemi commun. Cuba. Le Cuba de Fidel Castro. Cuba, véritable bombe dans la zone d'influence des Américains depuis le virage pro-soviétique pris par Castro au début des années 1960. Et Cuba, pire cauchemar aussi des dictateurs sud-américains qui redoutent, comme la peste, la propagation des idées révolutionnaires sur leur continent. L'Argentine est donc en alerte. Lorsque Scherer débarque à Buenos Aires en 1969 avec sa femme, Rosemary, cela fait 3 ans qu'une dictature militaire dirige le pays. Le Parlement, les partis politiques ont été dissous. Tout le pouvoir est concentré entre les mains du général Onganía, obsédé par la menace communiste. Censure, répression policière, droit de grève supprimé, le pays est quadrillé. C'est l'année suivante que l'hystérie anticommuniste en Amérique latine va monter violemment d'un cran. Quand au Chili, pays voisin, le 4 septembre 1970, le socialiste Salvador Allende est élu démocratiquement président de la République.
Con motivo de la votación producida, el Congreso pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Goza. Se levanta la sesión.
Ce n'est pas la victoire d'un homme, mais la victoire du peuple et la victoire du Chili. Et c'est pour cela que le 4 novembre, le peuple entrera avec moi au palais de la Moneda.
La réaction américaine est immédiate. 10 jours plus tard, lors d'une réunion de crise à la Maison-Blanche, le conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger, expose la situation au président Nixon.
L'élection d'Allende comme président du Chili est pour nous l'un des plus graves défis jamais subis dans cet hémisphère.
Convaincu que l'exemple chilien deviendra un nouveau Cuba, Richard Nixon déclare au directeur de la CIA:
si Allende réussit à mettre en œuvre une politique marxiste anti-américaine, d'autres en feront autant. En Amérique latine, mais aussi en Europe. Il faut donc sauver le Chili.
À Washington, un budget secret de 10 millions de dollars est débloqué pour destituer Allende. Un des premiers actes terroristes cautionnés par Nixon et l'assassinat du général chilien René Schneider. À éliminer, parce que ce démocrate est un obstacle majeur à un coup d'État militaire. Il ne faudra que 3 ans pour que cette politique de déstabilisation aboutisse. 11 septembre 1973.
France Inter, il est 19h.
Bonsoir. Le socialisme à la chilienne, expérience peut être terminée, le président Allende est destitué par l'armée. Les informations, Ralph Pinto, qui parviennent actuellement de Santiago du Chili, sont, il faut le dire, fournies par les radios qui sont aux mains des militaires.
Oui, en effet, ces radios proclament aussi que l'armée contrôle la majeure partie du pays, que le président est destitué, que le couvre-feu est décrété, que l'état de siège est également appliqué. L'armée affirme qu'elle attaque le palais présidentiel après avoir demandé aux carabiniers de se retirer. Le Chili de la Révolution tranquille, le Chili du premier président marxiste légalement élu en Amérique latine, va être obligé de changer, peut-être pas pour le meilleur.
Au Chili, dès le lendemain du putsch, des milliers de partisans d'Allende sont pourchassés, arrêtés et emprisonnés au mépris de toute procédure légale. Beaucoup sont torturés. Plus d'un millier d'individus sont exécutés sommairement.
Pitié, je vous en supplie.
Leurs corps ne seront jamais retrouvés. Mais cette violente répression n'est qu'une première étape de la politique du régime qui se maintiendra au pouvoir au Chili jusqu'en 1990. Voici Augusto Pinochet, interviewé par la télévision allemande 9 mois après le coup d'État.
¿Cuánto tiempo va gobernar la Junta?
Combien de temps la junte va-t-elle rester au pouvoir? C'est la question. Nous n'avons pas fixé de délai de temps, nous nous sommes fixés des tâches à remplir. Nous avons un certain nombre d'objectifs à atteindre. Lorsqu'ils le seront, nous pourrons arriver à l'organisation d'élections libres.
A medida que nosotros vamos alcanzando los objetivos, nos vamos aproximando a llegar a las elecciones libres. Por lo demás,
de plus, un pays qui a été rongé pendant si longtemps par le cancer marxiste ne peut s'en délivrer en 2 ou 3 ou 6 mois. C'est une question de temps pour que les gens comprennent qu'ils ont plus à gagner d'un système de liberté que du totalitarisme marxiste.
Le couvre-feu vient de l'entrée.
Le dictateur ne se contente pas en effet d'avoir pris le pouvoir. Il veut éradiquer toute trace des partisans d'Allende, au Chili, mais aussi hors du Chili. France Inter, le 30 septembre 1974.
À Buenos Aires, en Argentine, le général Carlos Prats a été tué par une bombe placée sous le capot de sa voiture. L'attentat a également coûté la vie à son épouse. Ancien commandant en chef de l'armée chilienne et ministre de la Défense, sous la présidence de M. Salvador Allende, le général Prats ne semblait avoir aucune activité politique depuis son arrivée en Argentine, après le renversement du gouvernement Allende.
Un attentat, on le sait aujourd'hui, commis avec la complicité de la CIA. Robert Scherrer, on va le voir, fait partie des agents américains qui vont aider le Chili de Pinochet à pourchasser ses opposants hors de ses frontières. En Argentine, mais aussi dans les pays voisins, où Scherrer se rend régulièrement, en touriste, avec sa chère épouse Rosemary. Mais surtout, l'agent du FBI s'est constitué un important carnet d'adresses au Chili, en Uruguay, en Bolivie, mais aussi au Paraguay. Ce pays, situé au nord-est de l'Argentine, dirigé d'une main de fer depuis 1954 par le dictateur Alfredo Stroessner, soutenu lui aussi par les États-Unis.
Paix, travail et bien-être avec Stroessner. Cette enseigne domine le centre d'Asunción depuis 18 ans. Le 5 mai 1954, le 22e coup d'État depuis le début du siècle, avait fait du général d'artillerie Don Alfredo Stroessner le président de la République du Paraguay. Gare à ceux qui ont la tentation de contester ce bonheur établi. Ceux-là sont automatiquement traités de communistes.
Un syndicaliste paraguayen réfugié en France témoigne en 1964 dans le même reportage.
Me llamo Antonio Sotomayor. Soy casado, tengo 4 hijos.
Je m'appelle Antonio Sotomayor, je suis marié, j'ai 4 enfants.
Fui apresado en la campaña por actividades sindicales.
J'ai été arrêté à la campagne pour activités syndicales. Puis on m'a ramené au centre d'investigation où j'ai été torturé avec des méthodes héritées des criminels nazis.
Por métodos que heredaron de los criminales nazis, como es la picana eléctrica.
On vous plonge par exemple dans une baignoire pleine d'excréments et d'urine jusqu'à l'asphyxie. Et puis on recommence, jusqu'à ce qu'on avoue ce qu'ils veulent vous faire avouer.
Perder prácticamente la respiración, lo sacan para luego de reanimarlo un poco, volverlo a sumergir.
J'ai passé 8 ans en prison et je ne suis jamais passé en jugement, comme tous les prisonniers qui sont encore dans les commissariats du Paraguay.
Dans ces conditions, sont tous les presos politiques qui actuellement restent dans les prisons du Paraguay.
À Asunción, la capitale du Paraguay, Robert Scherer rencontre régulièrement deux sinistres individus. Le général Benito Guanes, le chef du service de renseignement de l'armée, et Pastor Coronel, le chef de la police, un tortionnaire redouté pour son centre d'interrogatoire, surnommé El Sepulcro de los Vivos, le tombeau des vivants. Un homme pourtant que Scherer a pris l'habitude de tutoyer. On va le voir, c'est grâce à la collaboration de Scherer, de l'Argentine et du Paraguay, que la DINA, la police secrète chilienne, dirigée par Manuel Contreras, va mettre la main sur des opposants politiques. Le premier d'entre eux, Jorge Fuentes Alarcón, sociologue chilien, membre du comité central du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, une organisation chilienne d'extrême gauche, pourchassée depuis le coup d'État. Le 16 mai 1975, Jorge Fuentes Alarcón quitte Buenos Aires, où il vit en exil, pour se rendre au Paraguay. Un voyage de 10 heures en autocar, en compagnie d'Amilcar Santucho, un militant argentin. Tous deux sont missionnés pour prendre contact avec les révolutionnaires du Paraguay. L'objectif, créer une organisation clandestine qui rassemblerait toutes les forces d'extrême gauche d'Amérique latine. Son nom, la JCR. Junte de coordination révolutionnaire. En unissant leurs forces, ces révolutionnaires sud-américains veulent lancer la lutte armée contre les dictatures militaires. Les deux hommes ont sur eux de fausses pièces d'identité. Mais à peine l'autocar a-t-il franchi la frontière du Paraguay que la police monte à bord et passe les menottes à Santucho. Quant à Fuentes Alarcón, il est arrêté le lendemain à son hôtel à Asunción et emprisonné. Pendant 6 mois, les deux militants seront interrogés et torturés par la police paraguayenne, mais aussi par des Uruguayens, des Argentins et des Brésiliens. On a bandé leurs yeux, mais les prisonniers reconnaissent les accents de leurs tortionnaires. Dans une pièce à côté de la salle d'interrogatoire, au fur et à mesure des renseignements arrachés sous la torture aux prisonniers, un homme, qui ne peut pas ignorer ce qui se passe de l'autre côté du mur, prend des notes. Robert Scherer, bien sûr, qui a pris le premier avion pour Asunción dès que Pastor Coronel l'a informé de cette importante arrestation. Sous la torture, au fil des semaines, les deux prisonniers dévoilent leur véritable identité, leurs activités et surtout l'existence de la JCR. Des carnets trouvés sur eux révèlent les noms et les adresses de plusieurs de leurs camarades. Consciencieusement, l'agent du FBI transmet ses renseignements à ses chefs à Washington.
Selon les informations qu'il a fournies au cours de divers interrogatoires menés par la police à Asunción, le sujet a reconnu être membre de la JCR et faire office de messager pour cette organisation.
Aux États-Unis, le FBI ouvre alors une enquête. Et quelques jours après, la sœur de Jorge Fuentes Alarcón, qui vit en exil au Texas et dont le nom apparaissait dans le carnet d'adresse, a la surprise de recevoir la visite chez elle d'un agent du FBI.
Vous êtes bien Sonia, la sœur de Jorge Fuentes Alarcón?
Oui.
Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il a déjà vécu ici avec vous?
Non, je ne l'ai pas revu depuis qu'il a quitté le Chili. C'était plusieurs années avant le coup d'État. Mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions?
L'agent du FBI s'en va, sans informer la jeune femme que son frère vient d'être arrêté au Paraguay et subit des tortures quotidiennes. Elle n'apprendra sa disparition que bien des années plus tard. Mais Robert Scherer n'informe pas que le FBI. En cela, sa responsabilité est énorme. il transmet ses renseignements aussi au Chili. Il écrit une lettre au général Ernesto Baeza, le directeur général d'investigation à Santiago, l'informant qu'il peut disposer du Chilien qui a été arrêté. Suite logique de cette lettre, quelques jours après, des agents de la DINA viennent au Paraguay chercher Fuentes Alarcón et le ramener au Chili. À Santiago, le militant du MIR sera détenu et torturé à la sinistre Villa Grimaldi, une ancienne boîte de nuit transformée en centre de détention, avant de disparaître pour toujours. Amilcar Santucho, arrêté avec lui, aura plus de chance. Resté au Paraguay, il sera extradé 4 ans plus tard vers la Suède. La lettre confidentielle envoyée au Chili par Scherer est conservée aujourd'hui dans les archives de la Sécurité nationale à Washington. Son existence ne sera révélée qu'en 1999 par un journaliste du New York Times. Tapée à la machine, datée du 6 juin 1975, avec en en-tête « Ambassade des États-Unis à Buenos Aires, Argentine », écrite en espagnol dans des termes très courtois, cette lettre est d'une importance historique capitale. Elle est en effet la première preuve officielle de la collaboration active des États-Unis avec les services de renseignement des dictatures sud-américaines.
Vous suggérez qu'il pourrait y avoir une sorte de programme américain d'assistance à la police. Je voudrais que vous sachiez que rien de semblable n'existe dans ce pays.
Et accessoirement, elle révèle aussi le rôle clé joué par l'agent Robert Scherer. En informant les services secrets chiliens, cet homme s'est fait complice de la torture et de la mort de Fuentes Alarcón. Des années plus tard, en 1979, Robert Scherer acceptera de parler à John Dinges, un journaliste d'investigation américain qui enquête alors sur les crimes de Pinochet. C'est Scherer qui, avec honnêteté, lui révélera l'affaire Fuentes Santucho. L'agent du FBI tentera de se justifier d'avoir livré Fuentes aux Chiliens en affirmant qu'à ses yeux, il avait fait son devoir, car à l'époque, dans le jargon américain, Fuentes était un terroriste. Mais Scherer ajoutera
« Il fallait l'arrêter, mais il aurait dû être jugé. Pas torturé, pas massacré. »
Mais revenons à l'été 1975. Quand les renseignements extorqués sous la torture à Fuentes et Santucho arrivent au Chili sur le bureau de Pinochet, les révélations sur les projets de lutte armée de la JCR alimentent la paranoïa du dictateur. Il ne doute pas que la JCR, avec le soutien de révolutionnaires du monde entier, s'apprête à commettre des actions terroristes de grande envergure pour prendre le pouvoir en Amérique du Sud. Ces projets sont bien réels, mais on le sait aujourd'hui, leur réussite, dès le début, était peu vraisemblable. La capacité opérationnelle et l'influence de la JCR ont été largement surestimées par Pinochet et ses alliés. Il n'empêche, le Chili organise la contre-attaque. 26 novembre 1975, à Santiago du Chili. Il fait beau et chaud en ce début d'été austral. À l'école de guerre, une belle villa sur l'Alameda, la plus grande avenue de la capitale, Augusto Pinochet et Manuel Contreras ont invité à une réunion secrète les chefs du renseignement des pays voisins, Uruguay, Paraguay, Bolivie, Brésil et Argentine. L'objectif, leur soumettre un plan d'action coordonné et efficace pour frapper et abattre leurs ennemis communs, où qu'ils soient dans le monde, et anéantir le communisme international. Les moyens, collecte et échange de renseignements, utilisation des technologies de pointe, téléx, microfilm, ordinateur, cryptographie, mais aussi ce que dans le jargon on appelle des opérations.
Adelante.
Autrement dit des enlèvements, des interrogatoires avec torture et des assassinats ciblés. La collaboration internationale, initiée avec l'arrestation de Fuentes et Santucho, va donc se généraliser et prendre une ampleur inédite. 2 jours plus tard, le 28 novembre 1975, les 5 chefs du renseignement invités par Pinochet acceptent le projet chilien et signent la résolution finale. Mais avant de se quitter, ils doivent donner un nom à leur nouvelle organisation secrète, véritable machine à tuer. Ce sera Opération Condor, en référence au grand rapace des Andes. Le condor, oiseau de proie, charognard et symbole national du Chili. Désormais, les dictatures d'Amérique du Sud sont prêtes à mener ce qu'on appellera leur sale guerre. Immédiatement et pendant des mois, les opérations menées par des escadrons de la mort se succèdent. Des révolutionnaires chiliens et uruguayens sont assassinés. Des dirigeants politiques aussi sont visés. En juin 1976, le corps de Juan José Torres, ex-président socialiste de la Bolivie, est retrouvé sans vie, criblé de balles, sous un pont en Argentine. Mais l'opération Condor, très vite, passe à la vitesse supérieure, n'hésitant pas à agir hors d'Amérique latine, même chez son allié. Antenne 2, le 22 septembre 1976.
Orlando Letelier, ancien ministre du président chilien Allende, a été assassiné par la police secrète de Pinochet. Ce sont les représentants de l'opposition chilienne en exil qui l'expliquent. Pour l'instant, évidemment, rien ne permet de le prouver. M. Letelier a été tué hier à Washington par l'explosion d'un engin qui a détruit son automobile. Le FBI ne lui avait jamais accordé la protection particulière qu'il demande.
Le 21 septembre 1976 à Washington, dans le quartier huppé des ambassades, le Chilien Orlando Letelier, ancien ministre de la Défense de Salvador Allende et figure de l'opposition en exil, meurt dans un attentat à la voiture piégée. De même que son assistante américaine, Ronnie Moffitt, 25 ans. Cet attentat, commis en plein cœur de la capitale, crée une vive émotion aux États-Unis. C'est le premier cas de terrorisme international commis sur le sol américain. Des voix s'élèvent pour réclamer la vérité, tandis que des milliers de manifestants, avec à leur tête la chanteuse Joan Baez, assisteront aux funérailles d'Orlando Letelier. C'est dans cette affaire que nous retrouvons Robert Scherrer, l'agent du FBI, qui a quitté en 1975 son poste de Buenos Aires, participe à l'enquête en tant que spécialiste de l'Amérique latine. Et les renseignements qu'il va fournir vont jouer un rôle capital. Robert Scherrer, qui on l'a vu a collaboré activement avec les dictatures sud-américaines, eh bien c'est lui qui va révéler au monde l'existence de l'opération Condor, alors totalement inconnue. Le 28 septembre 1976, soit une semaine seulement après l'attentat, Robert Scherrer rédige un rapport connu sous le nom de Cable Chilbom.
Opération Condor est le nom d'une opération regroupant la collecte, l'échange et le stockage d'informations, qui a été mise en place récemment par plusieurs services de renseignement en Amérique du Sud afin d'éliminer les activités terroristes des marxistes de cette région. Le Chili est le pays référent pour l'opération Condor.
Robert Scherrer termine son rapport avec une information capitale qui éclaire l'attentat contre Letelier d'une lumière nouvelle.
Une troisième phase, la plus secrète de l'opération Condor, prévoit la formation d'équipes spéciales des pays membres chargées de voyager partout dans le monde afin de réprimer, par des actions allant jusqu'à l'assassinat, les terroristes ou les partisans d'organisations terroristes.
Grâce à Scherrer, Washington apprend donc l'existence d'une phase 3 de l'opération Condor, prête à commettre des assassinats dans le monde entier, Europe et États-Unis compris. Ce rapport, qui jette une lumière crue sur la réalité des pratiques de ces dictatures, permettra d'arrêter les meurtriers d'Orlando Letelier. Et en 1996, il servira de preuve, la seule preuve alors disponible, lorsque 3000 familles de victimes et de disparus porteront plainte contre Pinochet. Mais en 2003 encore, le Chilien Manuel Contreras s'obstinera à nier.
L'opération Condor est une falsedad qui n'a existé.
L'opération Condor est un mensonge qui n'a jamais existé.
Mais le rapport de Robert Scherrer interroge. Il laisse supposer qu'en 1976, le gouvernement américain ne sait rien de l'opération Condor. Est-ce crédible ? pour le journaliste John Dinges, il ne fait aucun doute que Washington connaissait dès 1975 l'existence de cette organisation secrète. Pour John Dinges également, les Américains savaient que les Chiliens projetaient des assassinats à l'étranger. Kissinger aurait ordonné à Pinochet de ne pas les exécuter. Mais, incompréhension ou désobéissance, ces ordres n'ont pas été entendus. Robert Scherer est donc le premier en 1976 à lever le voile sur l'opération Condor. Depuis, des journalistes, des militants de droits de l'homme, des familles de personnes disparues, des avocats, des juges, se sont battus, parfois au risque de leur vie, pour faire éclater toute la vérité et pour que les criminels soient jugés. Robert Scherer prend sa retraite en 1988. Mais l'année suivante, à Washington, l'ancien agent du FBI, désormais handicapé et se déplaçant en chaise roulante, se voit remettre un prix pour son combat pour les droits humains des mains d'Isabelle Le Tellier, la veuve d'Orlando Le Tellier.
Robert Scherer n'est pas un dissident ni un lanceur d'alerte. Il est juste un homme extraordinaire et honnête qui a permis de faire la lumière sur l'assassinat d'Orlando et également d'aider beaucoup de personnes en Amérique latine.
Des honneurs assez rares pour un agent du FBI. Étonnant personnage que ce Robert Scherer, observateur et acteur d'une pièce complexe où les idéaux et les réalités se heurtaient brutalement. L'idéal américain de la démocratie et des droits de l'homme est la réalité de la guerre froide qui a poussé les États-Unis à soutenir des régimes criminels perçus comme des remparts contre le communisme. Robert Scherer meurt en 1995 à l'âge de 60 ans. Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter. Réalisation Audrey Ripouille, documentation Frédéric Martin, mixage Basile Beaucaire et Baptiste Collion, avec les comédiens Lise Combe, Grégoire Roqueplot et Grégoire Leprince-Ringuet.